Bonsoir, heureux de vous accueillir sur le plateau des informés du dimanche sur France Info, la radio, la télévision, le canal 27 de la TNT, les réseaux sociaux et puis bien sûr sur franceinfo.fr, notre site avec le live, avec les reportages, avec nos enquêtes et avec surtout le replay des émissions. Nos informés de France Info sont ce soir François Hernenwein, un habitué. Bonsoir François Hernenwein.
Bonsoir Pierre, rédacteur comme tous les dimanches.
Rédacteur en chef au quotidien à La Croix, notre partenaire. Un petit nouveau ce soir autour de ce plateau. Bonsoir Thierry Illouz.
Bonsoir.
Alors je précise que vous êtes avocat, romancier, auteur de pièces de théâtre, mais surtout vous publiez un essai qui s'appelle « Même les monstres » aux éditions L'Iconoclaste, un témoignage fort, passionnant, sur votre enfance de rapatrié d'Algérie, jusqu'au prétoire, la défense de pédophiles, de criminels, et vos interrogations sur ce monde de la justice et le regard de la société sur les coupables. En face de vous, sur ce plateau, j'accueille aussi avec plaisir un revenant, Vincent Beaufils. Bonsoir Vincent.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction du magazine Challenge. Tiens, qu'est-ce qu'il y a à la une de votre magazine cette semaine ?
Les entreprises qui attirent les jeunes, parce qu'on a besoin de les avoir et il faut se montrer plus ouvert, plus collaboratif, enfin avoir vraiment un comportement avec eux qui change totalement.
Et à vos côtés, notre partenaire de France Info Télévision, canal 27 de la TNT, Daïkodu. Bonsoir.
Bonsoir.
Éditorialiste
bonsoir
politique. Alors, dans ces informés de France Info, nous allons débattre de cet appel des personnalités pour une commission d'enquête parlementaire sur les crimes de pédophilie dans l'Église de France, aux États-Unis, en Allemagne, en Irlande, au Chili. Les révélations d'abus sexuels se succèdent avec des sanctions. Mais en France, les mauvaises brebis sont-elles toujours dans le temple ? Jeudi prochain, Emmanuel Macron sera à Colombey-les-Deux-Églises pour rendre hommage au général de Gaulle, l'homme du 18 juin qui a donné une nouvelle constitution à la France. C'était il y a tout juste 60 ans. Cette constitution de 1958 est une vieille dame, solide, mais qui n'a pas hésité à se faire des liftings pour être toujours dans l'air du temps. Et puis dans ces informés de France Info, nous ouvrirons une large page sur la justice. Les magistrats sont indépendants, rappelle la chancellerie, alors que l'on soupçonne l'Élysée d'être à la manœuvre pour désigner le successeur du procureur de Paris. Et d'ailleurs, la justice au quotidien, comment s'exerce-t-elle ? Nous en débattrons avec notre invité qui connaît mieux que quiconque les parloirs, les cours d'assises, dans sa robe de Batman. C'est lui qui le dit. Alors tout d'abord, dans ces informés du dimanche, je vous propose de débattre autour de la question de la pédophilie dans l'Église de France, car le magazine Témoignages Chrétiens publie un appel à la vérité, un appel pour la création d'une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur les crimes étouffés par la hiérarchie catholique. Et pour lancer ce débat, je vous propose d'écouter les propos de cette catholique pratiquante, propos recueillis ce matin à la sortie de la célébration à la paroisse Saint-Merry de Paris.
L'Église de France, elle a fait 118 pages pour dire qu'elle ne voulait pas la PMA pour toutes les femmes et elle a fait, je crois, 20 lignes sur la pédophilie. C'est mou. C'est scandaleux, tout évêque et tout curé doit dénoncer conformément au droit pénal français tout salopard de pédophile au procureur.
François Hernenwein, voilà qui lance le débat. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sainte colère de cette paroissienne ?
Les colères sont parfois saintes et à propos de l'appel que vous évoquiez tout à l'heure à la création d'une commission d'enquête parlementaire, je pense que l'avantage de cet appel, c'est de pousser les feux. Et je pense que l'invitation implicite de cet appel, c'est de s'adresser aux évêques de France, à la hiérarchie catholique, pour qu'elle prenne ce dossier à bras-le-corps et qu'elle avance plus vite qu'elle ne l'a fait, si on fait du comparatisme avec d'autres pays, l'Allemagne juste à côté, la Pennsylvanie ou ailleurs. Mais pour être juste et équilibré, l'Église n'était pas inerte sur ces questions, il y avait des choses déjà faites, mais devant l'ampleur du scandale et des drames liés à ce scandale, je pense qu'il faut une action plus déterminée, plus visible et plus intelligible pour les chrétiens et pour l'ensemble des Français.
Vincent Beaufils du magazine Challenge, est-ce qu'il faut passer par une commission parlementaire ? Parce que le socialiste Olivier Faure, ce matin, émettait des réserves. Est-ce qu'il se demande si cette commission serait plus qualifiée pour enquêter au sein de l'Église catholique ? Il dit que c'est surtout un moyen d'alerter l'opinion.
Moi, je suis pas sûr du tout que ce soit effectivement le meilleur lieu pour effectivement faire en sorte que l'Église se pose les bonnes questions. On a l'impression effectivement que l'Église de France est à la traîne. Moi, Je trouve surtout que sur ce sujet-là, au-delà effectivement du respect de ce qu'il s'est passé, il faut que l'Église, et pas l'Église de France, se pose une fois pour toutes le vrai sujet, qui est celui du célibat des prêtres. Et là, on a vraiment le sentiment que sur ce sujet-là, notre pape François, qui pourtant a pris des positions très courageuses sur des tas de sujets, notamment sur les questions économiques que je connais bien, mais sur ce qui concerne sa propre maison, il est d'un conservatisme qui ne permet pas à la société et la société catholique d'avancer.
Alors je voudrais faire écouter Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Elle est plutôt favorable à une commission d'enquête. Elle était l'invitée de l'émission Le Grand Jury RTL LCI à la mi-journée. Écoutez, elle salue d'abord la position de l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, qui veut faire avancer les choses. On l'écoute.
Moi, je voudrais saluer les paroles très fortes qui ont été prononcées ce matin même par Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris. Il a dit il y a un abcès dans l'Église et il faut purger le pus. Moi, je suis plutôt favorable à une commission d'enquête. Aucun sujet ne doit échapper et aucun crime ne doit échapper au regard du Parlement.
Daïk Audouy, les mots sont forts.
Oui, mais c'est un problème quand même. Quand Valérie Pécresse dit qu'aucun crime ne doit échapper au Parlement, c'est pas le
rôle du Parlement de juger une commission d'enquête parlementaire.
C'est d'informer.
Oui, enfin, j'ai l'impression qu'on s'est un peu une mode. Bon, on a beaucoup parlé de l'audition pour Benalla, donc c'est à la mode maintenant sur n'importe quel sujet, pour tout et n'importe quoi. Et la pédophilie, ce n'est pas n'importe quoi, mais on fait une commission d'enquête parlementaire. C'est un cadre quand même, une commission d'enquête parlementaire. Pas hyper strict, mais quand même, ça doit avant tout enquêter sur les entreprises ou les institutions publiques dont les députés votent le budget, voir s'il y a dysfonctionnement, et éventuellement les grands sujets de société. Mais dans ce cas-là, pourquoi se restreindre à parler de l'Église et pas faire la pédophilie dans plusieurs domaines, et notamment ce qui concerne l'État en premier lieu, c'est-à-dire l'éducation nationale ou l'aide à l'enfance. Donc voilà, c'est un peu problématique ce que dit Mme Pécresse.
J'en appelle au regard de l'avocat Thierry Louze, vous qui connaissez bien les prétoires, qui avez eu à défendre des pédophiles. Quel est votre regard? Il faut passer par une commission d'enquête? Faire avancer l'opinion?
Moi, je pense qu'en fait, la vraie question, c'est l'enquête au sens large du terme. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il faille laisser l'enquête, au sens le plus fort du terme, aux soins de la justice. Uniquement sur cette question. Je parle d'une enquête sur l'opinion publique, sur les termes d'un débat public, parce que c'est un drame tellement lourd, tellement, et en plus tellement secret, que d'une certaine manière, il faut trouver des moyens d'actionner ce levier-là de l'opinion. Alors peut-être que l'enquête parlementaire, avec les garanties et peut-être les contraintes, je suis d'accord avec l'idée que le Parlement n'a pas à juger les crimes et les délits, ça c'est clair et net, je suis tout à fait d'accord, mais l'enquête générale, pourquoi pas.
On va poursuivre ce débat avec vous dans un instant. Avant cela, à 20h11, on fait un point sur l'info avec vous, Léo Téchère.
Emmanuel Macron rend hommage à la mobilisation de l'État après le passage de l'ouragan Irma l'année dernière à Saint-Martin. Le président rappelle que le retour des services publics s'est effectué en 5 semaines sur l'île et les difficultés qui persistent sont en train d'être traitées, promet-il. Emmanuel Macron qui menace les bailleurs sociaux de poursuites judiciaires s'il ne répare pas avant la fin de l'année les logements. La France accueillera 18 migrants de l'Aquarius ces prochains jours. Ils ont été pris en charge par la marine maltaise cet après-midi. Midi. Au total, 58 personnes, principalement d'origine libyenne, qui débarquent donc pour le moment sur l'île de Malte. Nouvelle catastrophe naturelle pour le Japon. Un typhon balaye encore une fois les environs d'Osaka dans le sud du pays. 84 personnes sont blessées pour le moment. Et après les vents à plus de 210 km/h, les inondations et glissements de terrain menacent la région. Un détective de bande dessinée orphelin ce soir, Jack Palmer, perd son créateur. Le dessinateur René Pétillon est mort aujourd'hui à l'âge de 72 ans. Il était notamment connu pour sa fameuse enquête corse et pour ses dessins satiriques dans le Canard enchaîné. Et puis les golfeurs européens remportent la Ryder Cup contre les États-Unis. Ambiance folle à domicile dans le golfe de Saint-Quentin en Yvelines. L'Italien Francesco Molinari est un des héros de cette équipe d'Europe. Il a remporté ses 5 matchs en face, performance contraire de la légende Tiger Woods. L'Américain a perdu chacun de ses 4 matchs.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Alors, y a-t-il besoin d'une commission d'enquête parlementaire pour exposer sur la place publique, pour dévoiler, pour expliquer tout ce qui s'est passé dans l'Église de France, ces crimes concernant la pédophilie? L'Église de France, François Hennewein, est-ce qu'elle est une grande muette sur ces affaires de pédophilie quand le pape François, lui, a condamné ouvertement ces atrocités, je cite ces mots, commises dans l'Église?
Ni muette, ni indifférente. La conférence d'évêques a pris la parole, un certain nombre d'évêques se sont exprimés sur cette question. On ne peut pas dire qu'il y a une volonté de silence, mais...
Il n'y a pas eu de coup de balai comme dans certaines églises à l'étranger.
Ce qui se passe, c'est que peut-être les évêques en France ont un peu de mal à prendre la mesure de la crise systémique que la découverte de ces affaires dans l'ensemble du monde appelle comme réaction. Et je pense qu'ils se prononceront sur cette idée de commission d'enquête parlementaire dans quelques jours, mais la création de cette commission est quand même soumise à la volonté des parlementaires. Donc on va voir ce qui se passe au Parlement, on verra quelle sera la réaction des évêques. Mais dans l'histoire récente, quand l'Église était mise en cause, par exemple pour la protection du milicien Touvier, qui finalement... a été jugé. Oui, il a été jugé. Donc là, c'est à l'initiative de l'Église, du cardinal de Courtrai à l'époque à Lyon, qu'une commission avait été mise en place, présidée par René Raymond, et tout un travail en profondeur d'enquête avait été fait sur ce qui avait été caché, pas dit, par l'Église dans la protection de Touvier. Et on peut imaginer que de la même façon, des experts se saisissent de la question et on n'aura pas les mêmes débats que ceux qu'on pourra avoir politiquement orientés éventuellement au Parlement.
Vincent Beaufils, vous avez évoqué il y a quelques instants, on a parlé de cette question du silence, de la complicité, de la complicité, de la nécessité de la vérité. Et après donc, c'est la question du célibat des prêtres qui est posée.
Écoutez, j'ai été frappé, comme peut-être d'autres lecteurs du journal Le Monde, il y a quelques jours, en lisant cette double page sur la progression, mais exponentielle, des évangélistes au Brésil. Moi, je me souviens d'il y a une quinzaine d'années, 20 ans, quand je suis allé au Brésil, je sentais une ferveur populaire comme jamais j'ai vu autour des prêtres, une église extrêmement vivante, et de voir que ceci a été grignoté par les évangélistes. Il y a beaucoup de raisons. Je pense que les évangélistes sont très très bons dans leur manière d'être proches des gens, proches des communautés, etc. L'Église l'était. Mais je suis sûr aussi que l'image que donnent les évangélistes avec des couples qui sont comme tous les autres est quelque chose qui a permis cette progression rapide. Et je ne comprends
L'Église
pas...
L'Église doit aller dans cette modernité ?
Je ne comprends pas pourquoi là-dessus on n'en parle même pas.
Alors je suis pas le pape, je suis pas dans les dignitaires catholiques, je sais pas si
question de société.
Oui, alors il faut toujours rappeler que ça n'a pas été toujours le cas. Je crois que c'est autour de l'an 1000 qu'on a décidé que les prêtres devaient être célibataires. Avant, c'était recommandé en termes, ouais, mais c'était quand même recommandé avant comme idéal humain le plus proche possible du comportement de Dieu, étant donné qu'il faut que la cité terrestre ressemble un peu à la cité céleste, un petit peu. Donc voilà, c'est depuis 1000 ans. Donc c'est quand même profondément ancré dans la symbolique catholique, pas dans la vie réelle peut-être, mais dans la symbolique de ce que représente la vie de prêtre comme... mais Monsieur Delacroix va parler sans doute mieux que moi.
François Hennewein.
Voilà. François, il va plus nous dire peut-être en quoi c'est une préparation à la vie qui est après dans le futur, la vie céleste, et comment le prêtre est une sorte d'éclaireur peut-être de cette vie-là.
C'est exactement ça qui, vous l'avez dit tout à l'heure, a pu justifier le célibat des prêtres. Et 1000 ans d'histoire ne se balayent pas d'un revers de main. Mais ça a été très bien dit tout à l'heure, comme expérience humaine. Le célibat des prêtres met un peu le prêtre hors sol de la communauté des chrétiens dans un statut particulier, ce que le pape a d'ailleurs parfaitement dénoncé en évoquant les dérives du cléricalisme, etc. Mais ça serait absurde de penser que le célibat, il y a une corrélation directe
entre
la pédophilie et le célibat.
On ne peut pas établir de lien.
Tous les prêtres ne sont pas pédophiles et il y a des pédophiles qui ne sont pas prêtres.
Une majorité de pédophiles ne sont pas prêtres. Hein. Voilà. C'est avant tout dans les familles.
Je pense qu'effectivement, la vraie question, c'est d'interroger l'acte pédophile. Parce qu'effectivement, ça, c'est quelque chose que j'ai eu à pratiquer. Effectivement, il faut quand même, dans le grand débat sur l'Église, il va falloir quand même un jour qu'on pose les questions de savoir quelle est la place qu'occupe cette pulsion dans l'Église, mais dans la société. C'est-à-dire d'où elle vient. Effectivement, le célibat des prêtres, c'est peut-être un élément du débat. Ben, le célibat en tant que tel ne règle pas la question de la pédophilie. C'est pas le mariage qui règle la question de la pédophilie. Il faut quand même qu'on mette sur la table les questions posées par la sexualité de manière générale.
Le prêtre, de par sa fonction, a un pouvoir. Il devient une personne de confiance sur laquelle on peut compter. Il devient une autorité. Et là, il peut y avoir des abus de pouvoir et des abus sexuels.
Totalement, mais ce sont les mêmes questions, la question du pouvoir que je connais moi avec la police, avec les magistrats d'une certaine manière, on est confronté. Tout pouvoir contient une possibilité d'abus. Les prêtres aussi, toute personne, la loi le prévoit. Les personnes qui ont autorité, effectivement, sont des personnes qui sont plus dans la possibilité, dans la capacité d'abuser. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, la question se pose pour les prêtres. Mais il faut quand même interroger pourquoi autant de pédophiles. C'est pour ça que je parle d'une grande enquête. Il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi, à l'intérieur de l'Église, cette pulsion pédophile est devenue si présente pendant des années et des années.
François Hennewein, pour conclure.
Mais une piste sur ce sujet a été soulevée par le pape François. Et tout à l'heure, Vincent évoquait toute l'œuvre du pape François en matière économique, mais même en réorganisation de la curie, et le message qu'il a envoyé clair et net sur les dérives du cléricanisme, c'est une prise de position très forte du pape François dans le sens d'une réforme qui va, à mon avis, véritablement dans le bon sens, y compris sur les questions qu'on évoque ce soir.
On va tourner une page dans ces informés. On va parler de politique, de la Constitution de 58, car on célèbre ce week-end une date anniversaire, le 28 septembre 1958. Eh bien, les Français votaient par référendum pour une 5e République, pour un changement de Constitution. On en parle avec vous sur ce plateau dans un instant. Mais avant cela, à 20h20, on fait un tour de l'info avec vous, Léo Téchère.
L'Indonésie se prépare à des enterrements de masse 2 jours après le tsunami qui a ravagé l'île des Célèbes. Le bilan toujours provisoire fait état de 832 morts, mais le vice-président indonésien craint qu'il n'atteigne un ou plusieurs milliers. Les enterrements doivent permettre d'éviter la propagation des maladies. Marine Le Pen envisage de se pourvoir en cassation contre la saisie d'1 million d'euros dans les caisses du Rassemblement National. Un montant réduit de moitié cette semaine dans cette affaire d'emploi fictif au Parlement européen. La présidente du parti héritier du Front National annoncera sa décision demain. Le Venezuela accuse la France d'ingérence. L'Élysée annonçait hier soir soutenir la démarche de plusieurs pays d'Amérique du Sud qui demandent à la Cour pénale internationale d'enquêter sur de possibles crimes contre l'humanité. Le Venezuela dénonce cet encouragement à changer de gouvernement par la force. La démilitarisation compliquée autour d'Idlib en Syrie, des rebelles démentent avoir retiré leurs chars et autres canon de cette zone tampon décidée par la Russie et la Turquie entre d'un côté la province rebelle et de l'autre le territoire sous contrôle du gouvernement. L'Observatoire syrien des droits de l'homme maintient ses informations contraires. Et puis un derby de football bouillant ce soir entre Montpellier et Nîmes. Montpellier l'emporte à domicile 3-0. Mais le club risque de lourdes sanctions. Le match a été interrompu 2 fois par des supporters qui ont fait céder les grilles et menacé d'envahir le terrain. Les CRS sont intervenus avec des gaz lacrymogènes.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu. Alors, il y a tout juste 60 ans, les Français disaient oui, par référendum à la nouvelle Constitution instituant la 5e République. Et surtout, ils disaient oui au général de Gaulle.
Si avec mon gouvernement, je vous appelle à répondre oui et à le faire en masse, de grand cœur, c'est simplement au nom de la France, en vous demandant de choisir l'efficacité de l'État et l'unité nationale.
Vincent Beaufils, directeur de la rédaction du magazine Challenge. Charles de Gaulle parle du destin de la France. Il voulait mettre tout simplement fin à une instabilité qui durait, j'allais dire, depuis des siècles, depuis la Révolution.
En tout cas, on voit bien tout ce qu'on a gagné en termes de stabilité en passant de la 4e à la 5e République. On vit aujourd'hui, on voit bien aussi les inconvénients du choix qu'on a fait, la manière dont effectivement ce pouvoir jupitérien qu'on reproche à Emmanuel Macron, il est un héritage direct de cette Constitution et du général de Gaulle, et que tout procède de l'Élysée, on le voit dans les nominations, et la difficulté qu'il y a aussi à contrôler cette démocratie de manière très différente de ce que font par exemple les anglo-saxons avec tout ce qu'on appelle les check and balance. On évoque dans Challenge cette semaine ce qu'est en Grande-Bretagne le National Audit Office qui a 800 personnes qui contrôlent le Parlement et les parlementaires de manière beaucoup plus prégnante que ce que peut faire la Cour des comptes, dont les avis sont entendus, mais qui ne débouche jamais sur grand chose. C'est une autorité, qui nous impressionne, mais qui ne contrôle pas tel que ça se passe par exemple en Grande-Bretagne. Donc c'est un pouvoir dont on voit bien que pendant 5 ans on est tranquille. Et que ça permet de faire de grandes réformes. Hein. Ça veut dire qu'effectivement, ce que fait Emmanuel Macron aussi, il peut se permettre de dire, c'est pas en 2019 qu'on va en voir les premiers effets, donc il a 5 ans pour lui, mais on connaît les dérives également sous le même Macron.
D'ailleurs, on voit que cette constitution a été taillée pour le général de Gaulle, que les autres présidents se sont emparés de ce costume taillé pour le général, mais on voit quand même que cette constitution a été établie pour qu'il y ait un président, pour qu'il y ait un premier ministre, et il y a sans arrêt eu des conflits entre l'Élysée et Matignon, entre Charles de Gaulle et Georges Pompidou, entre Giscard d'Estaing et Chirac, entre Mitterrand et Rocard, entre Sarkozy et Fillon.
Il y a des conflits qui sont liés à des conflits politiques entre des gens qui viennent de même parti ou de partis alliés et qui chacun veut tirer l'avantage à lui, Chirac-Giscard. Et puis, il y a les confrontations avec deux partis différents, ce qu'on appelle la cohabitation.
Ce sont des confrontations plus d'hommes que générées par la Constitution.
Voilà, Chirac-Mitterrand, c'était permis par la Constitution. C'était permis parce que ça l'est toujours, mais ça n'est plus possible. En tout cas, c'est très peu vraisemblable avec l'inversion du calendrier et le fait qu'avec le quinquennat, les élections législatives suivent un mois après l'élection du président et que depuis que c'est mis en place, donc depuis 2002, les Français ont toujours validé de façon tout à fait cohérente et logique un mois après le choix qu'ils ont fait à la présidentielle en donnant une majorité très large au parti du président. Et on l'a bien vu avec Emmanuel Macron et En Marche, des députés inconnus qui ont tous été élus largement. Donc voilà, donc cette hyper présidentialisation du régime a été permis par cette inversion de calendrier. Mais c'est aussi la gloire, dira-t-on, de cette constitution d'avoir quand même su évoluer. Je rappelle, 24 révisions depuis 1958. En revanche, il y en a 17 depuis 92. Donc on a l'impression que plus on avance dans les années, plus on fait des révisions de plus en plus souvent. Vous parliez de lifting tout à l'heure. Le Botox, il paraît que c'est très bien, mais qu'on devient très vite accro. Et c'est un peu le Botox de la Constitution, ces révisions.
J'ai l'impression que quand on est président de la République, on a systématiquement besoin de laisser sa patte dans la Constitution. Chaque président touche à la Constitution. C'est l'air du temps, il faut le faire.
Mais non, chaque président estime qu'il a à faire évoluer le texte fondamental. Et tous, s'y sont livrés, ils sont parvenus ou pas, en tous les cas, ça fait partie du kit de survie du président de la République d'aménager la Constitution. Sur le fond de cette Constitution de la Ve République, pour voir et le génie et les faiblesses de la Constitution de la Ve République, il y a quelque chose qui est formidable en droit constitutionnel, c'est le comparatisme. Si vous regardez aux États-Unis, on a un président puissant, mais il est sous un contrôle sévère du Congrès, de la Chambre des représentants et du Sénat, et donc le président de la République ne peut pas tout le contrôle des assemblées, du Congrès, est fort. Et à l'inverse, on peut regarder ce qui se passe en Allemagne, la chancelière gouverne, mais le Parlement a du poids quand même. Et les commissions d'enquête en Allemagne sont un peu plus sophistiquées, ou aux États-Unis, un peu plus sophistiquées qu'en France. Le problème français, c'est un président de la République qui est irresponsable. Irresponsable, et il dispose dans son kit de survie, là aussi, d'un Premier ministre qui sert magnifiquement de fusil quand les choses vont mal. Et ce système-là, je ne suis pas sûr qu'il soit parfaitement adapté à l'état de la démocratie avancée.
On va poursuivre ce débat avec vous quatre concernant cette constitution de la Ve République. Mais avant ça, on fait un point météo et on fait un nouveau point sur l'info. À tout de suite. On se retrouve.
France Info Trafic avec Calipage, 300 distributeurs spécialistes de la gestion des fournitures de bureaux. Votre succès commence par Calipage.
Et comme tous les dimanches soirs, on fait un point route avec vous, Florian Cazola, au PC Mobilité de Radio France, où se trouve la principale difficulté, je présume, en Ile-de-France, comme tous les dimanches.
Exactement, sur l'A13 en direction de Paris, on voit notamment beaucoup de monde au niveau du péage de Mantes-la-Ville. Les voitures sont d'ailleurs quasiment à l'arrêt à partir de Rosny-sur-Seine. Du côté de l'autoroute A1, toujours en direction de Paris, le trafic se fait un accordéon à partir de l'aéroport du Bourget après un accident à l'entrée du périphérique. Plus au nord, comptez 25 minutes de ralentissement sur l'A25 de Bailleul jusqu'à Secdin en direction de Lille. Et puis prudent sur l'autoroute A40 dans le sens est-ouest. Un accident nous est signalé à Sensé, près de Mâcon.
Merci. On fait un point météo à présent.
France Info Météo avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos pilotes sur pilotepen.fr.
Jean-Michel Gonesque, Météo France.
Pas de gelée la nuit prochaine. Au lever du jour, les températures vont se maintenir entre 6 et 10 degrés en général, 13 à 15 autour de la Méditerranée, mais en journée avec partout un vent de nord sensible et même fort du golfe du Lion à la vallée du Rhône jusqu'à 100 km à l'heure. La fraîcheur va gagner du terrain par rapport au week-end avec une moyenne de 15 degrés l'après-midi sur la plupart des régions, localement encore 18 dans le sud-ouest, 20 degrés du golfe du Lion à la Provence où le ciel sera bien dégagé. Le soleil va également bien donner sur toute la moitié ouest du pays, mais plus à l'est, une fois passé un axe nord de la Seine, massif central, le temps plus menaçant va s'accompagner d'averses. À noter une instabilité plus forte et parfois orageuse l'après-midi du Jura aux Alpes et en soirée sur la Corse, avec de la neige vers 1500 mètres sur les Savoies, 1000 mètres sur les monts d'Auvergne.
Pour l'achat de votre appartement neuf, choisissez un appartement certifié NF Habitat. Plus d'infos sur nfhabitat.fr. NF Habitat, c'est mieux, c'est sûr.
Merci d'avoir choisi France Info, il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
On retrouve Emmanuel Langlois pour l'info.
Pour la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les crimes pédophiles dans l'Église catholique, voici le titre d'une pétition lancée par le magazine Témoignages Chrétiens. Plusieurs personnalités s'y associent, les ex-ministres Roselyne Bachelot, Laurence Rossignol ou encore le psychanalyste Jean-François Rouzière. Les signataires demandent une totale transparence pour ne pas, disent-ils, continuer à avoir un scandale tous les trois mois. Alors, appel entendu par les catholiques, Adrien Bossard pour France Info est allé rencontrer des fidèles à une messe de la paroisse Saint-Méry. C'est dans le 4e arrondissement de Paris.
Tous les fidèles sont unanimes, les actes pédophiles ne peuvent plus être ignorés.
On ne comprend pas très bien ce qui se passe dans le cœur de ces prêtres qui font subir ça à des enfants.
Une enquête parlementaire, pourquoi pas pour Christine? Cela aurait au moins le mérite d'entendre les prêtres et d'interroger l'institution sur leur formation.
Sur la sexualité des prêtres et sur l'éventuel mariage des prêtres, de leur nécessité, en tout cas de leur souffrance peut-être de ne pas pouvoir vivre en famille.
Mais une enquête parlementaire est suffisante. Daniel veut aller plus loin. C'est une enquête judiciaire qu'il faut, dit-elle, pour avoir accès aux archives diocésaines et savoir qui sont les pédophiles et ceux qui se sont murés dans le silence pour les protéger. Elle a la dent dure envers l'Église.
Tout évêque doit dénoncer conformément au droit pénal français tout salopard de pédophile au procureur.
Qu'importe si l'Église est prête ou non à se confesser, pour le père Daniel Duigou de la paroisse Saint-Méry à Paris, il n'y a plus de temps à perdre, ça ne peut plus durer.
Comment peut-on par exemple parler d'une page de l'Évangile où Jésus dit « Laissez venir à moi les petits
petits-enfants. Comment pouvez-vous aujourd'hui penser qu'un prêtre peut reprendre ces paroles-là d'il y a 2000 ans sans que ses interlocuteurs soient parasités par l'actualité ?
Il en va de l'avenir de l'Église, une Église au bord du gouffre, dit-il.
Adrien Bossard, la mort du père de l'enquête corse, René Pétillon, auteur de la BD à succès portée au cinéma avec Christian Clavier, fin satiriste également de la politique française pour le Canard enchaîné, eh bien il est décédé aujourd'hui des suites d'une longue maladie. Pétillon avait 72 ans après l'enquête corse. Il avait été fait citoyen d'honneur de la ville de Bastia, sa grande surprise. La colère d'Emmanuel Macron face à la trop lente reconstruction, selon lui, de l'île de Saint-Martin, un an après le passage dévastateur de l'ouragan Irma. Le chef de l'État qui juge, par exemple, inacceptable que de nombreuses écoles n'aient toujours pas rouvert parce qu'on a préféré, dit-il, faire des travaux ailleurs. Emmanuel Macron qui achève ce soir son déplacement aux Antilles par un passage à Saint-Barthélemy. Les informés, ça continue.
Les informés, Pierre Neveu.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos quatre débatteurs, François Ernenwein, notre partenaire du quotidien La Croix, avec Thierry Illouz, avocat pénaliste, vous publiez Même les monstres aux éditions Iconoclaste, avec Vincent Beaufils, directeur de la rédaction du magazine Challenge, et avec Dave Codoui du service politique de la rédaction de France Info Télé, canal 27 de la TNT. Alors on parlait il y a quelques instants, il y a trois minutes pour être précis, de cette réforme constitutionnelle voulue par le général de Gaulle, la Ve République. J'aimerais avoir l'avis de l'avocat. Que pense l'avocat des rapports entre le monde politique et le monde judiciaire ? Question de fond autour de cette constitution.
Par rapport à ce qui se passe actuellement, vous voulez dire ?
Peut-être, par exemple. Si on doit évoquer la succession du procureur Molins, par exemple.
Oui, effectivement. Bon, la question de l'indépendance, et la question de l'indépendance qui est au cœur de ce débat-là, en tout cas. La question de l'indépendance entre le parquet et le pouvoir, ça fait longtemps, effectivement, que ça existe. Les rapports entre l'exécutif et le parquet, ne serait-ce que par la politique générale, par les instructions de politique générale, ça tout le monde le sait. Moi, en fait, la question qui me pose problème, c'est pas tellement celle-là, parce que celle-là, elle est claire, même le débat d'aujourd'hui, d'une certaine manière, je vois pas ce qu'il ajoute au problème. On souhaite tous de l'indépendance. Je pense que certains grands procureurs, y compris quand ils ont eu un rapport avec l'exécutif, ont su tout à fait faire preuve d'indépendance. Mais la vraie question, c'est peut-être, à mon sens, ce qu'on n'interroge jamais, c'est l'indépendance horizontale, si j'ose dire, entre le parquet et le siège, qui pour moi pose un problème qu'on n'évoque jamais. Pourquoi ne sépare-t-on pas ces corps à l'intérieur d'une même institution? On a à la fois l'accusation et le siège. Voilà, en tant que praticien de cela, moi, pour moi, ça m'inquiète plus d'une certaine manière que le rapport entre le parquet et l'exécutif, qui de toute façon, effectivement, là, pour le coup, serait complètement séparé.
À travers les nombreuses révisions constitutionnelles, il y a quelque chose qui a changé, et ça vous concerne, vous, l'homme de loi. C'est le Conseil constitutionnel qui s'est emparé, de la justice avec les nombreuses QPC. Aujourd'hui, les questions prioritaires de constitutionnalité, ça modifie énormément votre travail. Ça modifie énormément la vie de la justice, la vie politique.
C'est quand même, en tout cas, dans mon travail, c'est quelque chose qui devient de plus en plus présent, et je trouve pas ça inintéressant du tout. Ça permet effectivement d'interroger au-delà du texte quelque chose de plus important, de plus général, effectivement une sorte de cohérence interne qui m'apparaît tout à fait souhaitable. Le Conseil constitutionnel fait plutôt des choses qui m'apparaissent utiles. Effectivement, nous, on a souvent recours, maintenant, aujourd'hui, à cette question, à cette QPC qui est un outil.
Vincent Beaufils.
Oui, il faut souligner que c'est une des réformes qui est...
Réforme de 2008, je crois.
Oui, qui est vraiment pleine de sens. Quand on s'interroge sur une procédure que l'on fait ou que l'on fait pas, moi je vois à Challenge, on a un grand sujet actuellement sur la liberté d'information par rapport à quelque chose qui nous est empêché. Il y a une affaire célèbre dans le monde économique que je n'ai même pas le droit d'évoquer, parce qu'à chaque fois que je l'évoque, je prends 10 000 euros d'amende. Donc
on n'en parle pas.
On on ne parlera pas de l'entreprise qui est consacrée.
Faites attention.
Au moment, avant même de demander appel, on a décidé avec notre avocat de faire une QPC parce que c'est un vrai sujet qui intéresse absolument tout le monde. Et ça, je trouve que c'est une des réformes de la Constitution qui a vraiment fait progresser la citoyenneté.
Dave Codouy, est-ce que notre Constitution est à bout de souffle parce que sans arrêt, on entend, notamment lors de la dernière campagne présidentielle, des candidats à l'Élysée qui disent « il faut une 6e République, il faut changer ». Est-ce qu'à force de faire des liftings, des ravalements de la Constitution, elle n'a plus de sens, il faut la changer ? Est-ce qu'elle ne correspond plus à l'état de la société d'aujourd'hui ?
Alors, elle correspond plus forcément à l'état de la société où la société ne comprend plus le système politique. C'est ça qu'avancent les partisans de la 6e République, qui sont quand même plutôt à gauche, hein, qui sont Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, pour prendre le cas de la dernière, et Philippe Poutou, pour prendre le cas de la dernière élection présidentielle. Ils considèrent que la démocratie représentative ne représente pas les citoyens. Et donc, ce qui est en cause, c'est les processus de désignation. Préoccupation à laquelle répond un petit peu Emmanuel Macron dans son projet de révision constitutionnelle avec l'institution d'une dose de proportionnelle, avec la limitation du nombre de députés. Bon, il y répond partiellement, mais pas totalement. Eux, ils voudraient qu'il y ait d'autres processus de désignation. Et d'ailleurs, le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il a fait campagne en disant qu'il ferait une assemblée constituante pour dire quelle serait la nouvelle constitution. Donc, si on votait pour lui, on était obligé de lui faire confiance parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait trouver après.
François Hernenwein. Le système est à bout de souffle, il faut changer cette constitution de 58 ? Je repose la question.
Mais c'est le génie des institutions de la Ve République, critiqué par exemple par François Mitterrand, dénonçant le coup d'État permanent. Et chaque fois qu'un président est élu, il se coule dans ces
dans
institutions
les
qui sont quand même assez commodes du point de vue de celui qui est installé à l'Élysée. La remarque qu'il faut faire... les velléités de changer la Constitution, il y a eu des réformes spectaculaires. Par exemple, tout à l'heure, vous évoquiez le quinquennat, ça pose un problème. Aujourd'hui, le quinquennat n'a pas été une réforme utile au fonctionnement de la démocratie. Il y a cet aspect-là des choses. Mais fondamentalement, je suis profondément convaincu que, parfaitement adapté aux circonstances de 58 et puis les années qui ont suivi. Aujourd'hui, la Constitution de la Ve République a besoin de se moderniser pour introduire un peu plus de créativité citoyenne dans la prise de décision.
Vincent Beaufils.
En tout cas, moi, je souhaiterais qu'elle nous permette de garder ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est un peu de temps. Parce que, surtout dans un pays comme la France où on a besoin de réformes profondes, on sait que les réformes profondes sont des réformes, je pense par exemple à celle qui est en train d'être faite sur l'éducation, sur le code du travail, ce sont pas des réformes à réaction rapide, mais plutôt à diffusion lente, et le fait d'avoir réellement, 5 ans pour mettre quelque chose en œuvre, c'est très rassurant pour un pays comme le nôtre.
Voilà, on va refermer provisoirement cette page sur la Constitution et ouvrir une page avec notre avocat présent sur ce plateau, Thierry Lewis, concernant la magistrature, concernant l'exercice de la justice au travers de votre livre intitulé « Même les monstres ». Avant cela, on fait un point sur l'info. Avec vous, Léo Técher, 20h40.
Emmanuel Macron promet de relancer le tourisme l'année prochaine à Saint-Martin. Un an après, l'île ne s'est toujours pas remise de l'ouragan Irma. Le président annonce donc des aides publiques pour les commerçants, les hôteliers et la publicité en direction des touristes américains. Il doit désormais s'envoler pour la dernière étape de sa tournée aux Antilles à Saint-Barthélemy. Après le secours populaire, c'est l'UNICEF qui lance un appel aux dons pour les enfants en Indonésie. Un tsunami a fait au moins 832 morts sur l'île des Célèbes vendredi. Des centaines, voire des milliers d'autres victimes sont redoutées. Angela Merkel met en garde Donald Trump contre sa tentation de détruire les Nations Unies. La chancelière allemande rappelle au président américain que l'ONU a été fondée sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale et que détruire l'ordre actuel menacerait la paix. Salah Hamouri, libéré en Israël, l'avocat franco-palestinien est resté plus d'un an en détention administrative sans qu'on lui explique les raisons. Il a interdit permission de célébrer cette libération pendant 30 jours et ne doit prendre part à aucune activité militante. Et puis Lille accueille l'Olympique de Marseille ce soir, coup d'envoi d'ici moins de 20 minutes à 21h entre le 4e et le 3e de Ligue 1. Tout à l'heure, Montpellier a battu Nîmes 3-0 dans un derby bouillant interrompu deux fois par des supporters. Rennes et Toulouse ont fait match nul un partout cet après-midi.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Alors dans ces informés de France Info, avec vous, Maître Thierry Louz, on va parler de la justice au travers de cet essai que vous publiez aux éditions Iconoclaste, intitulé « Même les monstres ». Vous racontez votre expérience avec franchise. Vous avez défendu des pédophiles, des meurtriers. Vous expliquez « L'inexcusable n'est pas indéfendable ». C'est ce que vous dites avant tout dans votre livre. Pour expliquer que les monstres n'existent pas.
Oui. Oui, en fait, effectivement, je suis parti un peu de cette question du monstre, qui est une question aujourd'hui fondamentale, c'est-à-dire d'une certaine manière, chercher une idée, un concept qui permette d'enfermer les gens sans comprendre, sans chercher à savoir, sans justice, en quelque sorte.
Défendre, c'est comprendre, c'est prendre des coups. C'est ce que vous dites, c'est votre expérience d'avocat.
Oui, c'est prendre des coups parce que c'est se confronter à quelque chose. Surtout quand on est au cœur d'un procès, du procès pénal d'une manière générale, on est à côté de celui qui a fauté, entre guillemets, en tout cas sur le principe. Donc c'est prendre des coups, mais c'est effectivement d'abord d'essayer de comprendre. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une sorte de défaillance, de déficit de compréhension de manière générale. C'est-à-dire qu'on parle de la pédophilie, c'est un thème terrible, c'est très difficile d'en parler, mais cet effort que j'évoquais tout à l'heure, si on n'essaye pas de... Quand on a été un avocat à côté d'un pédophile, on a fait cet effort d'essayer de savoir, de comprendre quelque chose à cette histoire. Si on refuse ce geste-là, qui est un geste naturel pour un avocat, mais qui, à mon sens, est un geste indispensable pour la société. Si on refuse ce geste, alors toute société qui cherche à être juste... est morte.
Votre regard sur la justice, j'ai noté cette phrase, la justice est un spectacle, elle est une chose publique, cette exhibition me gêne.
Oui.
Il y a trop de caméras dans les salles, pas d'audience, mais devant les cours d'assises. Il y a une ambiance qui vous gêne ?
Alors, on rentre pas...
On a besoin de faire de la publicité, entre guillemets, voilà. Sur les débats, mais... Quelque part, cela vous gêne ?
Oui, ce qui me gêne, effectivement, c'est la façon effectivement dont on parle un peu rapidement, un peu trop, et d'une manière trop spectaculaire de ces questions qui sont des questions profondes, qui sont des questions lourdes. On en parle du mal. Et forcément, cette exhibition publique, elle facilite ce raccourci.
Vous dites qu'on en parle mal, pardon, Pierre. Vous êtes contre, moi j'aimerais bien qu'on filme les procès, pour se rendre compte, pour que les gens s'en rendent compte, parce que vous dites, on en parle mal. Et c'est vrai, les avocats à la sortie, par exemple un avocat de pédophile, on va le voir dans les JT, 30 secondes, 20 secondes, en disant, mon client est... Il est coupable, mais il a des circonstances atténuantes. Il était triste, voilà, dans son enfance. Et c'est, voilà, on ne pas en profondeur et de montrer les procès et de voir vos plaidoiries, la façon dont vous les menez en totalité et autrement que par le compte rendu qu'on peut avoir par les journaux de presse écrite, ça nous permet peut-être de mieux comprendre.
Pourquoi pas, d'une certaine manière, vous rejoignez un peu ce que je dis. Alors, il y a beaucoup d'obstacles à lever pour qu'on rentre dans les prétoires, c'est encore une autre histoire. Mais d'une certaine manière, vous revenez sur ce que je disais, à savoir qu'effectivement, si on ne prend pas la peine d'entendre, de comprendre chaque élément, de savoir ce qu'est un dossier, de savoir ce qu'est l'histoire de quelqu'un de manière précise, effectivement, on va trop vite. On va trop vite et on passe à côté de quelque chose. Alors peut-être qu'effectivement, entendre les débats, ce qu'on a fait... D'ailleurs, dans de très grands procès comme Barbie, etc., c'est pas pour rien que tout à coup, on s'est dit, il faut entendre, il faut essayer de passer par une explication et que les choses soient plus lentes qu'un passage médiatique rapide et superficiel par nature, si ce n'est le tintamarre qui, effectivement, qui plaît beaucoup, qui attire les gens et qui passe à côté des choses.
Vincent Beaufils.
En tout cas, il y a une certaine constance des avocats à vouloir faire passer cette idée, le titre de Maître Thierry Louz, là, même les mondes. violence me rappelle, moi, un livre formidable que j'avais lu quand j'étais adolescent d'un des grands pénalistes du siècle dernier, Maître Alberneau, qui disait à peu près la même chose, que ça s'appelait « Les défendre tous ». Et c'était cette idée qu'effectivement, il n'y a pas de situation qui ne puisse être défendable. Et je trouve que ça, c'est une très belle idée. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on rêve tous quand on est au moment de choisir un métier, l'avocat est quelque chose qui nous tente toujours et on n'a pas le talent des uns et des autres.
Et vous vous abritez derrière cette robe noire, cette robe de Batman, c'est ce que vous dites dès le début de votre livre.
Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un livre où je croise une expérience intime. Ça m'a paraissé naturel et d'une certaine manière plus honnête de dire les choses telles qu'elles étaient à partir de soi. Je pense que l'expérience personnelle, c'est finalement une façon de faire comprendre les choses de manière plus fine.
François Hennenwein.
C'est très émouvant et moi je pense que dans le contexte actuel où la Vulgate demande à la justice de remplir une fonction de vengeance, que des gens se battent pour dire le droit, pour rétablir un équilibre là où il y a une rupture, me paraît être salutaire pour la paix sociale, la concorde sociale et la solidité de la société.
Jeudi de la semaine qui arrive, les avocats de France vont se rendre dans les classes de 5e, des collèges, pour parler des réseaux sociaux, des règles de droit. C'est important d'aller au-devant de la jeunesse pour expliquer ce qu'est la cybercriminalité aujourd'hui. C'est une initiative qui est organisée par le Conseil national des barreaux, par le ministère de l'Éducation nationale.
Mais tout à fait, je trouve ça effectivement très, très intéressant, puisqu'en fait la question c'est d'essayer de comprendre les outils. Le droit c'est un outil, ça peut être un outil formidable, ça peut être aussi quelque chose de terrible quand c'est mal mené, mais c'est ce qu'on essaie de faire passer aux enfants sans doute, cette question de l'outil qui peut protéger. Moi, c'est l'effort du droit d'une manière générale, de tenter de protéger. Et effectivement, cette pédagogie-là m'apparaît intéressante, parce qu'il y a des moyens, effectivement, d'identifier et de protéger.
Vincent Beaufils.
Il y a un outil qui est souvent utilisé dans les écoles anglo-saxonnes, qu'on pourrait développer bien davantage en France, c'est celui du débat, avec effectivement un avocat, un procureur, et en matière de développement de l'esprit critique, l'esprit d'analyse, c'est quelque chose qui est merveilleux et qui nous fait un petit peu défaut dans l'éducation à la française, où on met, comme toujours, davantage en avant le savoir, puisque l'expérience est la manière d'argumenter.
Pourquoi Thierry Louze, dans votre livre, vous dites vous avez envie de tourner la page de la justice à cause de cette justice spectacle? Vous avez fait le tour?
Non, ça, c'était effectivement, j'évoque cette justice. Non, mais c'est pas ça. La question, c'est qu'effectivement, c'est un métier comme je le raconte de l'intérieur. C'est forcément un métier dans lequel on laisse des plumes, si j'ose dire. C'est que si on s'implique, moi, je l'ai fait comme ça. C'est ma façon. Moi, je crois à quelque chose qui relève de l'empathie. C'est pas forcément la règle. C'est quelque chose qu'on vous déconseille. Il m'apparaît, du coup, c'est porté beaucoup de choses. J'ai traversé beaucoup de misère, j'ai traversé beaucoup de douleurs, j'ai traversé beaucoup de choses terribles. Et d'une certaine manière, je me dis que peut-être que ce serait bien. Alors, j'ai d'autres passions aussi.
Oui,
j'écris, etc.
Le théâtre, des chansons aussi.
Absolument, des chansons aussi. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, je me dis que ce serait peut-être pas mal aujourd'hui de lever un peu le pied et puis, riche de cette expérience, effectivement, parler autrement des mêmes choses, hein, mais parler autrement.
Thierry Illouz, Même les monstres aux éditions L'Iconoclaste. Dans un instant, je vais vous laisser une carte blanche d'actualité. Mais avant cela, à 20h50, l'essentiel de l'info, c'est avec vous, Léo Téchère.
Des pillages après le tsunami. L'Indonésie fait face à des pénuries d'eau, de nourriture et de carburant. Deux jours après le séisme et la vague qui ont fait au moins 832 morts, l'île des Célèbes se prépare à des enterrements de masse pour éviter la propagation des maladies. Laurent Wauquiez annonce une aide d'urgence de 200 000 euros pour l'abattoir incendié cette semaine dans l'Ain. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes dénonce un acte indigne et lâche. L'enquête privilégie effectivement un acte criminel. Les syndicats
syndicat agricole accuse d'ailleurs des militants véganes. Le meurtrier présumé du chef de la police municipale de Rodez, mis en examen aujourd'hui, l'homme âgé de 39 ans est accusé d'assassinat et de tentative d'assassinat sur la femme de sa victime. Il a expliqué avoir voulu se venger après qu'on lui a retiré son chien. Aux États-Unis, la Maison Blanche promet qu'il n'y aura pas d'ingérence dans sa part dans l'enquête du FBI sur le juge Kavanaugh. Le candidat de Donald Trump à la Cour suprême est accusé d'agression sexuelle. Les démocrates craignent une enquête bâclée et limitée à certains témoins. Et puis Romain Bardet n'est pas passé loin du titre de champion du monde de cyclisme sur route. Le Français termine deuxième derrière Alejandro Valverde à Innsbruck en Autriche. Romain Bardet qui regrette presque d'avoir manqué cette occasion qui ne se représentera presque jamais selon lui, mais qui ne veut pas non plus faire la fine bouche.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu. Le samedi soir, comme le dimanche soir dans l'émission Les Informés de France Info, je laisse à nos invités, à nos débatteurs, une carte blanche sur l'information, sur l'actualité. Tiens, François Hahnenwein, sur quel moment d'actualité, sur quel fait d'actualité vous avez envie de saisir cette carte blanche?
C'est un événement qui va se produire en fin de semaine, qui s'ouvre là demain.
La semaine prochaine.
C'est la 17e nuit blanche.
À Paris. Alors,
oui, c'est formidable à Paris et en banlieue aussi. C'est assez formidable parce que la ville se transforme, des bâtiments vivent la nuit avec des expositions d'art contemporain, c'est proprement fascinant. Il y a une vibration de la ville très particulière pendant ces nuits blanches. J'ai pas fait toutes les 17 nuits, ou toutes les 16 qui précédaient, mais celle où j'étais, c'est un émerveillement. Paris est transformé.
Paris devient piéton et ça devient une fête familiale. On va voir des créations.
Il y a des choses pour les enfants aussi.
Il y a des choses aussi pour les enfants, il y a des choses pour les adultes.
Voilà, mais c'est très beau, c'est très vivant et c'est une vibration particulière de Paris. On dit souvent que Paris est endormi pendant la nuit blanche.
Paris. Ce sera samedi prochain, notamment sur l'île Saint-Louis, au Grand Palais, au Parc Zoologique de Paris. Thierry Illouz, votre carte blanche ce soir.
Ben moi, je voulais parler de... C'est en lien avec ce que je disais avant, c'est-à-dire que moi, je voudrais parler de la surpopulation carcérale. Ça m'apparaît un thème fondamental.
Plus de 70 000 détenus.
Voilà, plus de 70 000 détenus pour moins de 60 000 places. C'est quelque chose qui devient terrible. Alors, le gouvernement, le président de la République et le garde des Sceaux ont affiché une volonté de faire quelque chose, mais il y a urgence. Je suis pas convaincu qu'effectivement on prenne toutes les mesures nécessaires, mais ça m'a
Une promesse de 7000 places supplémentaires d'ici la fin du quinquennat.
Voilà, mais je ne crois pas tellement à cette solution-là. À chaque fois qu'on a construit des prisons, on les a remplies. Entre 90 et 2014, je crois qu'on avait construit, on a créé 20 000 places, et aujourd'hui on est dans un état de surpopulation qui parfois va jusqu'à 150% dans les maisons d'arrêt de taux d'occupation. C'est vous dire que je ne pense pas que la solution ce soit de créer des places en prison, mais plutôt de vider les prisons en diminuant les peines, en soutenant la libération conditionnelle, en adoptant des rapports avec la peine, aux peines de substitution à la détention. Donc véritablement, je pense qu'il faut qu'on prenne cette question à corps. Ça m'apparaît fondamental et moi, ça me tient à cœur parce que je sais ce que sont les prisons. Ce sont des lieux terribles.
Dave Codouy, votre carte blanche ce soir.
Oh bah c'est une pensée, un hommage à Pétillon, le dessinateur.
René Pétillon.
René Pétillon qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 72 ans. Alors tout le monde le connaissait, enfin moi en tout cas je le connaissais en tant que dessinateur au Canard Enchaîné, dessinateur politique. Et puis comme tout le monde, j'ai découvert comme auteur de BD avec l'enquête Corse, et un livre qui a eu beaucoup beaucoup de succès, puis après l'adaptation ciné. Donc j'ai lu après les autres aventures de Jacques Palmer, son héros, qui est un héros très drôle parce que c'est un non-héros, ce qui permet à Pétillon de dresser des portraits de questions de société. Notamment, il a écrit L'affaire du voile en 2006, qui pourrait être écrite aujourd'hui. Elle est vraiment pas datée. Elle est assez drôle pour traiter un sujet qui est délicat. Elle est surtout pas datée. Donc c'était quelqu'un qui avait du talent pour croquer, et puis pour aussi comprendre un peu la société qui nous entourait.
Et cette affaire Corse qui avait été portée au cinéma, interprétée par Christian Clavier et Jean Reno. Reynaud. Vincent Beaufils, votre carte blanche ce soir.
Alors ma carte blanche, c'est le coup de cœur du jour pour un milliard de personnes qui ont regardé dans le monde entier la Ryder Cup, cette compétition de golf.
Pour la première fois.
Oui, pour la première fois. Et pas simplement parce qu'effectivement l'Europe a gagné. C'est vrai que ça faisait plaisir. J'ai eu le bonheur de passer l'après-midi là-bas. Mais c'était d'entendre autour des trous du golf national toute une population qui scandait, qui poussait, qui célébrait l'Europe, Europe, Europe, et ça me faisait sourire en pensant que par exemple demain Theresa May va se retrouver avec ses députés conservateurs en congrès, qu'elle va pas savoir comment sortir de ce Brexit, et de constater que par exemple il y avait la moitié de l'équipe européenne qui était faite de Britanniques et qui ont plus ou moins bien joué, et ceux qui aujourd'hui ont mal joué comme McElroy ou comme Westwood, eh ben ils étaient tellement contents, ils étaient tellement à encourager leurs petits camarades du continent que je me suis dit que pour une fois qu'on pouvait célébrer l'Europe comme ça, dans un ambiance festif comme c'était cet après-midi de golf national, ça valait le coup.
Et c'est un Italien qui donne le point de la victoire, hein, Molinari.
Oui, oui.
Voilà, vous parlez de l'Angleterre, mais c'est un Italien. François Hernenwein, notre partenaire, La Croix, donnez-nous la une de La Croix demain, s'il vous plaît.
Ça sera évidemment au secours de l'Indonésie, c'est-à-dire la mobilisation après le tsunami qui a fait près d'un millier de morts en Indonésie.
Merci à vous quatre. Alors, je rappelle Thierry Illouz, votre essai qui se lit rapidement avec... Passion qui raconte votre enfance de rapatrié, qui raconte pourquoi vous avez choisi de devenir avocat, qui raconte vos combats aux côtés des personnes criminelles, des pédophiles, surtout pas des monstres, c'est ce que vous expliquez dans votre livre. Même les monstres, c'est aux éditions L'Iconoclaste. Je remercie Daïk Audouy, je remercie Vincent Beaufils du magazine Challenge. Merci à vous également, François Hernenwein. La Croix, demain, le 8h30, politique, avec Marc Fauvel et Renaud Dely autour de la table. L'invité, ce sera Daniel Cohn-Bendit, ancien député européen. À la réalisation ce soir, Damien Sangali. À l'édition, Martin Bartoletti. Les informés demain reviennent à 20h avec Jean-François Aquili.